Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Édouard Geffray, qui est le directeur général de l'enseignement scolaire, est là avec nous. Vous allez pouvoir lui poser vos questions. Marie Guerrier, qui est responsable de l'éducation nationale sur RTL, d'une certaine manière.
C'est un bien grand mot, quoi.
Mais beaucoup, quand même. On peut le dire. Donc, vous allez participer à ce quart d'heure avec monsieur Geffray. On va pas faire de rappel des titres parce que les auditeurs vont pouvoir dialoguer avec monsieur Geffray, mais on va prolonger la question que vous posiez, Amandine. Vous avez dit 90% tout à l'heure des profs sont vaccinés. Il y en a 10% qui ne sont pas vaccinés. Cela, c'est sans doute parce qu'ils ne veulent pas l'être. Et au fond, vous voulez pas aller peut-être au combat, quand je dis vous, l'éducation nationale, pour ne pas faire un bras de fer et ne pas faire de vagues.
Non, je crois que c'est pas l'idée. L'idée, c'est que la vaccination obligatoire a été retenue lorsque un certain nombre de paramètres le justifiaient. On a parlé tout à l'heure des soignants avec des publics très vulnérables. J'ai exposé quelques paramètres qui me semblent avoir été pris en considération pour considérer que c'était pas obligatoire de faire vacciner les profs,
même
si c'est souhaité.
Les Français, en tout cas, ils sont favorables. Hein.
Mais si je puis me permettre juste un des messages, je ne crois pas que la lâcheté soit ce qui caractérise le ministre de l'Éducation nationale.
Bah, vous n'êtes pas allé au contact. On peut le dire comme ça. Vous n'êtes pas allé au combat.
Il y a un certain nombre de règles. Enfin, moi, une fois encore, je ne suis pas épidémiologiste. Hein, mais enfin, quand vous avez des médecins et des professionnels de santé qui considèrent que la vaccination doit être obligatoire dans certains cas, qu'elle n'a pas besoin d'être obligatoire dans d'autres, avec une fois encore un taux de couverture des professeurs qui est quand même très important en termes de vaccination, moi, j'ai tendance à suivre leur avis. Mais
je vous rappelle que pour prendre un café en terrasse, je dois avoir un pass sanitaire. Et que un prof qui est en contact avec des enfants toute la journée n'est pas obligé d'avoir un pass sanitaire.
Et celui qui proposait ça sur RTL ce matin était épidémiologiste connu dans le monde entier, enfin Antoine Flahault.
Ils ont un point de vue assez différent, comme vous le savez.
Amandine, il est 13h02. Oui. C'est une journée particulière pour vous. Et il faut le dire aux auditeurs, parce qu'il n'y a rien de plus important que la rentrée d'un de ses enfants.
Et oui, et moi j'ai mon fils qui rentre en CP à 14h.
Donc vous allez y aller.
Donc j'y vais.
Oui. Donc, bon, alors il est 13h02, j'espère
alors,
que l'école n'est pas...
C'est le masque des 6 ans en CP pour apprendre à lire, tout ça, c'est un peu compliqué. Monsieur Geffray, ça va s'arrêter quand, ça?
Écoutez, le port du masque, bien malin celui qui pourrait vous dire quand ça va s'arrêter. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, il y avait déjà des enfants en CP ou en CE1, etc., qui portaient le masque, et que quand on regarde leurs résultats, ça ne les a pas empêchés d'apprendre à lire, heureusement. Donc soyez confiante pour lui et bonne rentrée, surtout.
Merci beaucoup.
Comment il s'appelle
Gabriel.
Gabriel. Bah écoutez, vous savez, il rentre en CP, hein,
en
vous
CP.
Avez dit. C'est une rentrée très importante en CP, bien évidemment. Il est 13h02.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Marie Guerrier pourra bien sûr intervenir dans ce débat puisqu'elle connaît précisément ces dossiers. On est avec Cyril qui est proviseur dans un lycée dans le Loiret. Bonjour Cyril.
Bonjour Pascal, bonjour Marie, bonjour Monsieur le Directeur, bonjour aux auditeurs.
Une question peut-être pour Monsieur Geffray ou peut-être un avis sur ce qui s'est passé ce matin chez vous.
Ah bien écoutez, nous sommes tous très enchantés de réaccueillir en présentiel nos élèves. Nous avons ce matin nos 450 élèves de seconde qui sont présents dans l'établissement pour une journée qui leur est consacrée, spécifiquement pour un accueil personnalisé. Et tout s'est très bien passé. L'éducation nationale pourra faire sienne le slogan de la radio RTL, revivre ensemble. Voilà.
Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, Monsieur Geffray? C'est ce qui vous remonte ce matin de toute cette rentrée?
Alors, c'est un sentiment complètement partagé. Et je trouve ça, en plus, important de le dire comme ça. Donc, merci, Monsieur le proviseur. Parce que, on oublie parfois la beauté qu'il y a à avoir 12 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école avec les petites appréhensions, les joies, on retrouve les copains, on apprend, etc. Et donc, voilà. C'est bien aussi de rappeler que c'est pas parce qu'il y a un protocole sanitaire qu'on ne vit pas ça, à fond au service de la société.
Toutes les écoles ont rouvert aujourd'hui. Tous les profs étaient là, Marie Guerrier.
Tous les profs étaient là. L'école dans laquelle j'étais ce matin, on parlait des profs vaccinés. C'était une école maternelle avec une dizaine d'enseignants, tous vaccinés, et qui se sont vaccinés même assez vite dès le début de l'été.
Oui, parce qu'ils étaient plutôt demandeurs, en fait, les profs.
Ils étaient demandeurs, d'autant que, évidemment, en maternelle, les enfants ne portent pas de masque. Donc, voilà, c'était assez clair dans leur esprit, et ils se sentaient plutôt sereins pour cette rentrée.
Alors, moi, j'ai envie quand même qu'il y ait des questions, et merci Cyril, hein, bien sûr, mais Benoît a une question, parce qu'il est prof de maths, il est en lycée. Bonjour Benoît.
Bonjour Pascal.
Question pour Monsieur Geffray.
Monsieur Geffray, j'ai adoré entendre tout à l'heure votre réalité territoriale de l'épidémie, sachant que le protocole est national. Je voudrais savoir quels sont les indicateurs qui vous permettent de décider le niveau du protocole dans lequel les établissements scolaires sont baignés, parce qu'on sait qu'on est en protocole orange, au niveau 2, mais est-ce qu'on a des indicateurs significatifs qui permettent de passer de vert à orange, de orange à jaune, parce que peut-être que la différence est ténue.
Alors, aujourd'hui, donc effectivement, peut-être d'abord pour les auditeurs, rappeler qu'il y a quatre niveaux hein, de protocole, c'est-à-dire qu'ils vont de vert, jaune, orange et rouge. Aujourd'hui, on est en jaune, on est au niveau 2. Donc c'est un niveau dans lequel les établissements, donc les écoles sont tous ouverts et les élèves sont en présence. Donc on est au niveau 2 en métropole. Je rappelle justement que pour des raisons qui tiennent aux différents indicateurs sanitaires, aux Antilles, les écoles n'ont pas encore ouvert. Hein. Il y a eu un report de la rentrée. Donc il y a bien une adaptation. Ensuite, donc on tient compte évidemment de la situation épidémiologique qui est notamment à travers le taux d'incidence. Qui est évidemment important. Et puis, j'allais dire, la troisième étape, elle se conjugue au niveau vraiment de l'école et établissement. Et c'est là qu'il y a des mesures qui peuvent être prises au niveau de l'école et établissement, par exemple, de fermeture de classe. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il y a un cas, dans le primaire, il y a une fermeture de classe. Quand il y a un cas dans le secondaire, cette fois-ci, c'est l'élève qui reste à la maison pour pouvoir apprendre. Donc, c'est effectivement un grammage assez fin. Ça s'analyse aussi avec évidemment, les autorités sanitaires, les autorités préfectorales, surtout les autorités sanitaires, hein, qui sont, j'allais dire, les premières en première ligne pour apprécier la situation, mais c'est l'ensemble de cette configuration-là qui conduit les différentes parties prenantes à prendre des décisions de modulation du protocole, le cas échéant.
Benoît, est-ce que vous êtes content de cette réponse ?
Comment voulez-vous, Pascal, que je sois content de cette réponse ? Est-ce que vous croyez que c'est simplement l'idée que, oui, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, on est en rouge, et chez nous, on est en orange, et on n'a pas l'explication concrète. Mmh. Vous savez, je suis prof de maths, je suis assez ciblé sur les chiffres, et voilà, de même que tout à l'heure, quand vous dites 90% des professeurs sont vaccinés, j'aimerais bien qu'on dise, on a fait un sondage et on sait que on estime que 90% des professeurs sont vaccinés. Moi, je vais reprendre lundi avec une classe de seconde. On sera 34 plus le prof dans une salle de 36. J'espère que parmi les lycéens de seconde que j'ai, ils seront tous vaccinés, ce qui va nous permettre de continuer allègrement de faire des mathématiques et avec plaisir. Mais que
bon, vous n'êtes pas convaincu manifestement par le protocole, c'est ce que j'entends. Vous trouvez que le protocole est trop dur. C'est ça que vous voulez dire.
On a annoncé que dans mon établissement qui accueille 31 classes de la seconde jusqu'au BTS deuxième année, on a un seul capteur de CO2 pour tout l'établissement scolaire. Ça me rappelle un peu les détecteurs d'examens, de fraude aux examens. On se baladait dans les rangs des examens avec un truc qui faisait bip bip. Et en fait, on se demandait si ça marchait ou pas. Là, c'est un capteur de CO2.
D'accord, mais vous trouvez que le protocole est trop rude. C'est ça le sens de votre intervention.
Le protocole est trop rude. Non, le protocole, il est. On n'a aucune base sur comment on fait cours. Voilà, enfin, du style, pourquoi prend-on toute la classe ?
D'accord. Mais en même temps, vous trouvez qu'il est trop dur ou pas assez dur ?
Trop strict, vous savez, ça fait quand même 18 mois qu'on porte un masque. Je viens de faire une année scolaire complète avec des élèves face à moi. J'ai à peine découvert leur visage.
J'entends bien, mais j'arrive pas à savoir le fond de votre pensée. Vous trouvez que c'est plutôt que ça se comprend ou qu'au contraire c'est trop strict ?
Il est parfois incompréhensible quand on le compare à d'autres pays.
Merci en tout cas Benoît. Ça va être intéressant de continuer la discussion. On va être avec Sarah dans une seconde. Et puis vraiment je remercie Édouard Geffray de jouer le jeu avec nous. A tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Ils racontent leur 13 novembre.
Sur RTL, retrouvez les témoignages exceptionnels de ceux qui ont été au cœur des attentats de Paris. Ils sont anciens otages, policiers, victimes ou proches de ceux qui ont perdu la vie. Toute la semaine, avant l'ouverture du procès, écoutez leurs récits.
Mémoire du 13 novembre, une série de reportages à découvrir toute cette semaine à 7h20 sur RTL ou en intégralité sur l'appli RTL.
Maman !
Papa !
Vous serez toujours là pour lui. La MAE aussi. Alors choisissez dès maintenant le spécialiste de l'assurance scolaire. La MAE protège chaque enfant, qu'il soit victime ou responsable d'un accident. Attestation immédiate sur MAE.fr.
MAE, mon premier assureur.
Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr.
Vous avez remarqué ? Avoir des enfants, c'est pas toujours du gâteau. Surtout quand ils ont faim. Eh bien, le jeudi 2 septembre, c'est Jeudi Plus dans les magasins U. Vous bénéficiez de 30% de remise en Eurocarte U sur les biscuits et gâteaux sucrés. Oui, 30% de remise. De quoi rassasier tous les gourmands.
U. Commerçant autrement.
Offre limitée à 10 produits identiques réservés aux clients carte U. Hors promotion en cours, hors rayon vrac, hors rayon traditionnel. Voir conditions et liste des magasins participants sur magasinu.com. Pour votre santé, bougez plus.
Apérol ne se boit jamais seul. Pour réaliser le parfait Aperol Spritz,
Dans un verre rempli de glaçons, versez 3 volumes de Prosecco, 2 volumes d'Apérol et 1 volume d'eau gazeuse. Ajoutez une tranche d'orange, mélangez et c'est prêt. Apérol ne se boit jamais seul.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Votre nouveau canapé poltronné sofa est prêt. Prêt à vous accueillir et à prendre soin de vous. Avec une remise de plus de 50% sur les nouveaux modèles de la collection. En plus, jusqu'à samedi, découvrez la collection rentrée à partir de 489 euros seulement.
Poltronné sofa, autentica qualità. Et voilà!
Qualité authentique et vérifiez conditions en magasin.
Jusqu'au 19 septembre chez Netto, c'est la foire au vin. Pour 2 cartons achetés d'AOP Bordeaux Rouge Duc de Bellabon, le troisième vous est offert.
Les 3 cartons à 29,98 euros. Je la sens bien cette foire au vin Netto.
Oui, et à ce prix-là, on va se faire une super cave.
Mais quel nez.
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
Par 3, soit 2,22 euros le litre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Plus d'informations sur netto.fr.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Édouard Geffray est avec nous, il est directeur général de l'enseignement scolaire. Vous savez qu'on reproche souvent à ceux qui dirigent d'être coupés de la réalité. On vous fait le procès d'être des représentants de la haute administration et de ne pas savoir précisément ce qui se passe sur le terrain. Alors j'ai vu que vous étiez passé par l'ENA par exemple, mais est-ce que vous êtes passé dans une classe comme prof ?
Alors, pas dans une classe du premier et du second degré. J'ai donné des cours post-bac, mais j'ai donné quelques centaines, voire milliers d'heures de cours, oui. Mmh. Et puis, vous savez, quand on travaille au ministère, on travaille avec d'autres gens, et notamment avec des professeurs et des acteurs de terrain qui nous aident d'ailleurs à faire ce qu'on fait. Et puis ensuite, on n'est pas complètement déconnecté, parce que soi-même, on peut avoir des enfants, on peut habiter...
Oui, mais c'est pas la même chose d'être on est exposé au contact monde, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'être prof dans une école. On pourrait imaginer que le directeur général de l'enseignement scolaire et était un prof de maths, un prof de français ou un prof d'histoire.
On peut imaginer qu'il a enseigné le droit, par exemple, aussi, en l'occurrence, mais tout est possible.
Alors, Jeanne est avec nous. Et Jeanne, elle est adjointe au maire et elle est déléguée à l'école municipale et elle a peut-être une question pour M. Geffray. Bonjour Jeanne.
Bonjour Pascal, bonjour M. Geffray. Je voulais vous demander, il y a beaucoup de coûts qui sont à la charge des communes, justement, pour le fonctionnement des écoles, dont les purificateurs d'air, pardon, dont la masse salariale des agents d'entretien qu'on a été obligé de remettre en place parce que il y a un protocole sanitaire à respecter. Tout ça a un coût. Est-ce qu'il peut, quelques mairies peuvent prétendre avoir des aides sur tous ces achats, sur tous ces masses salariales qui sont très très importantes depuis quelques années maintenant?
Monsieur Geffray, est-ce que l'État va payer les purificateurs d'air ?
Alors, d'abord, pour les purificateurs d'air ou les capteurs de CO2, effectivement, on est à la charge des mairies pour les écoles, etc. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il y a eu des efforts qui ont été évidemment faits. Alors, en l'occurrence, les derniers gros efforts ont été faits d'abord sur le volet numérique, puisqu'en cas du plan de relance, il y a plusieurs dizaines de millions, même centaines de millions d'euros qui sont affectés pour aider les écoles justement à s'équiper en matière numérique, etc., à s'équiper ce qu'on appelle des ENT, des espaces numériques de travail pour les élèves. En revanche, c'est vrai qu'à ce stade, sur capteur ou purificateur d'air, on est dans, entre guillemets, l'équipement des établissements ou des écoles. Et donc, à ma connaissance, en tout cas, c'est aujourd'hui pris en charge par les collectivités.
Jeanne, satisfaite de cette réponse ?
Ben écoutez, on va faire avec dans tous les cas. Je me dis que l'aération des salles n'est peut-être pas plus mal aussi avant de pouvoir poser tous ces outils-là. Donc au maximum, aérer les classes.
C'est vrai qu'il faut aérer.
C'est la mesure en fait principale même. Un capteur de CO2 dit juste quand il faut aérer. Mais si on aère régulièrement, c'est quand même ça qui protège, c'est pas le capteur.
Merci. Là, donc aujourd'hui, ils vont aérer.
Merci Jeanne. Sarah a une question à vous poser. Sarah qui habite Avignon. Sarah, vous êtes une maman peut-être de enfants qui sont au collège ou en lycée aujourd'hui ?
En primaire. Bonjour Pascal.
Primaire.
Bonjour Geoffrey. En primaire. Alors moi j'ai une question, je dirais peut-être, qui n'a rien à voir avec le Covid, mais... alors moi j'ai plus une remarque, enfin une question et une remarque. Pour moi, l'école est l'endroit qui doit être le plus égalitaire. Maintenant, en France, en 2021, on se rend compte encore que les enfants d'ouvriers ont 4 ou 5 fois moins de chances de finir ingénieur ou plus ou docteur qu'un enfant d'ingénieur ou de docteur. Donc j'aimerais savoir ce que vous pouvez faire en 2021 pour changer cela, parce que rien n'a changé, rien n'a avancé. Et voilà.
Réponse de Monsieur Geffray.
Alors, il faudrait que j'ai 10 minutes, mais je ne crois pas que je les ai. Mais les choses bougent, madame, et je peux vous garantir que c'est un combat non seulement quotidien, mais extrêmement porté. Je vous prends juste un exemple, très vite, mais quand même intéressant. Je suis le parcours d'un élève. Depuis 2019, instruction obligatoire à 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'entre 3 et 6 ans, c'est là que se construit la diversité du langage et qu'il y avait 30 000 élèves qui n'allaient pas à l'école en France entre 3 et 6 ans et qui par conséquent prenaient du retard. Dédoublement des grandes sections CP, CE1 en éducation prioritaire et plafonnement à 24 élèves par classe pour tous les autres. Ça fait que quand on regarde les évaluations des élèves progressent. Il y a des élèves qui aujourd'hui viennent à l'école, enfin qui malheureusement, sans avoir mangé le matin ou quasiment pas. On a lancé un programme petit déjeuner, il y a 250 000 bénéficiaires l'année dernière, on va encore augmenter cette année. Quand on arrive au collège, et ça c'est un point important, notamment pour j'allais dire des milieux qui sont peut-être moins favorisés et donc parfois moins informés sur la diversité des parcours, on travaille beaucoup sur comment finalement ouvrir l'ambition au sens propre. L'ambition, c'est regarder autour, donc c'est comment élargir l'ambition des élèves. Et on a lancé un truc qui s'appelle les cordées de la réussite, enfin on a dynamisé quelque chose qui s'appelle les cordées de la réussite. On a, pour une idée, 200 000 jeunes qui aujourd'hui ont un mentor d'une grande école, d'un professionnel, etc., qui est là justement pour les aider à trouver un stage et compagnie. Et donc aujourd'hui, on se donne les moyens. Je pourrais continuer comme ça, parce qu'en fait, on a fait ça tout du long de 3 à 18 ans. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes pris potentiellement en charge avec un dispositif qui vous accompagne, qui vous pousse, avec les internats d'excellence par exemple, où si vous êtes boursier échelon 5 ou 6 aujourd'hui, le rehaussement des bourses fait que vous êtes pris en charge à 100%, c'est-à-dire que vous pouvez aller en internat d'excellence sans que ça coûte 1 euro à votre famille, concrètement. Pourquoi ? Pour que justement des jeunes qui sont issus de milieux moins favorisés ou défavorisés puissent réussir comme les autres. C'est la promesse, hein. Enfin, je veux dire, on est là pour, enfin, c'est important parce que c'est ce qui nous fait vivre.
Sarah,
on est là pour ça.
Est-ce que vous êtes satisfaite là encore ? Question rituelle.
Alors la réponse évidemment est satisfaisante, mais les résultats sont toujours les mêmes. Les enquêtes qui sortent tous les ans, ou tous les deux ans, sont toujours les mêmes. Donc.
C'est plutôt tous les 3-4 ans et ça va. Honnêtement, avec tout ce qu'on fait, je pense vraiment que les prochaines, dans 2-3 ans, parce qu'il faut les effets de cohorte, mais je pense vraiment qu'on va avoir le résultat et en tout cas on se bat pour.
Vous restez encore quelques secondes avec nous.
Il y a une très forte autocensure encore chez les jeunes, on le remarque, les jeunes en milieu rural, les jeunes qui viennent de banlieue, en fait qui n'osent pas se lancer, qui se disent c'est pas pour moi, qu'est-ce que je vais aller faire là, les autres sont meilleurs, et puis c'est trop cher, et voilà. Et en fait, il y a toute une mentalité à faire évoluer de ce côté-là. Il y aura des associations qui travaillent là-dessus auprès des jeunes pour oser, en fait, au moins franchir le pas, parce qu'ils ont des résultats scolaires tout à fait corrects et qui peuvent même être très bons, mais oser.
On va marquer une pause. On remercie Monsieur Geffray d'être venu avec nous parce que c'était très intéressant de se livrer au jeu des questions et des réponses. Je vais garder Marie quelques instants encore parce que c'est la rentrée. Donc c'est un privilège que nous avons. Il est 13h18. Je vous remercie. Bonne rentrée à vous.
Merci vous aussi.
Vraiment, bonne rentrée. Vous avez des enfants peut-être ?
Oui, absolument.
Ah, vous en avez combien ?
5.
5 enfants.
C'est pour ça que je me sens vaguement concerné aussi par l'école, comme vous demandez ce que j'ai vécu.
Vous êtes jeune pour avoir 5 enfants. Vous avez 42 ans.
Écoutez, oui.
Et alors, tous ces enfants sont à l'école ?
Il y a des niveaux différents, forcément.
Bon, ils sont tous rentrés ce matin ?
Oui. Et on a assuré ça.
Bon, et vous avez le choix ? Vous les mettez dans des collèges ou dans des lycées que vous choisissez ? Ou c'est la carte scolaire ?
Ils sont chez moi, dans ma banlieue natale, comme tout le monde.
Comme tout le monde. Merci, bonne rentrée à eux, évidemment. 13h18, à tout de suite.